Chapitre 2. Monsieur Talleva, du moulin de Dorlcote, déclare sa résolution au sujet de Tom. « Ce que je désire, savez-vous, dit Monsieur Talleva, ce que je désire, c'est de donner à Tom une bonne éducation, une éducation qui puisse lui assurer du pain. C'est à quoi je pensais quand j'ai signifié qu'il quitterait l'académie à la Notre-Dame. J'ai l'intention de le mettre dans un véritable pensionnat à la Saint-Jean. Les 2 ans de l'académie auraient bien suffi, si j'avais voulu en faire un meunier et un fermier, car il a eu joliment plus d'école que moi. Toute l'instruction que mon père a jamais payée à mon intention s'est bornée à une verge de bouleau et à un alphabet. Mais j'aimerais que Tom eût un peu plus d'études, afin d'être au fait des tours de ces gaillards qui savent si bien parler et écrire avec des paraphes. Il me serait utile alors pour les procès, les arbitrages et autres choses. Je voudrais faire de ce garçon un véritable homme de loi, non pas un de ces rusés coquins, j'en serais fâché, mais une espèce d'ingénieur, d'arpenteur, d'huissier ou d'expert, comme Riley, ou enfin lui donner quelqu'une de ces occupations habiles qui sont tout profit, sans autre avance de fond qu'une grosse chaîne de montre et un tabouret élevé. Elles reviennent toutes à peu près au même, et elles ne sont pas loin de ressembler aux affaires de loi, je crois. Car Riley regarde le procureur Wakeham en face aussi hardiment qu'un chat en regarde un autre, et il n'en a pas du tout peur. Monsieur Talleva s'adressait à sa femme, une blonde de bonne mine, sous un bonnet en forme d'éventail. Je suis effrayé en pensant au temps écoulé depuis qu'on en portait. Ils doivent être sur le point de revenir à la mode. À cette époque où Madame Talleva avait près de 40 ans, ils étaient tout nouveaux à St. Ogg's et considérés comme charmants. Bien, monsieur Talleva, vous savez ce qui en est. Je n'ai rien à dire contre. Mais ne ferais-je pas mieux de tuer une paire de poulets et d'avoir les tantes et les oncles à dîner la semaine prochaine, pour que vous entendiez ce que Sir Glegg et Sir Pallet ont à dire à ce sujet? Il y a une paire de poulets qui ont besoin d'être tués. Tu peux tuer tous les poulets de la basse-cour si tu veux, Bessie. Mais je ne demande à aucun oncle, ni à aucune tante, ce que j'ai à faire de mon propre garçon, dit M. Talleva d'un air de bravade. Bonté du ciel, dit Mme Talleva, blessé de cette rhétorique sanguinaire, comment pouvez-vous parler ainsi, monsieur Talleva? Mais c'est toujours là votre manière de parler avec dédain de ma famille. Et Sir Glegg en rejette tout le blâme sur moi, quoique je sois aussi innocente que l'enfant encore à naître. Car personne ne m'a jamais entendu dire que ce ne fut pas heureux pour mes enfants d'avoir des tantes et des oncles qui peuvent vivre indépendants. Toutefois, si Tom doit aller à une nouvelle école, je désire que ce soit un endroit où je puisse le blanchir et le raccommoder. Sinon, il pourrait aussi bien porter du calicot que de la toile, car il deviendrait aussi jaune l'un que l'autre après une demi-douzaine de lavages. Et puis, quand la caisse irait et reviendrait, je pourrais envoyer à mon garçon un gâteau ou un pâté au jambon ou quelques pommes, car il peut bien, grâce à Dieu, supporter un morceau d'extra, qu'on lui mesure ses repas ou non. Mes enfants peuvent manger tout autant que la plupart des autres, Dieu merci. Bien, bien, nous ne l'enverrons pas hors de portée de la voiture du charretier, si les choses peuvent s'arranger, dit M. Talleva. Mais il ne faudra pas me mettre de bâton dans les roues à cause du blanchissage, si nous ne pouvons trouver une école rapprochée. C'est le défaut que je trouve en toi, Bessie. Au moindre obstacle que tu vois sur la route, tu crois toujours que tu ne pourras pas le franchir. Tu voudrais m'empêcher d'engager un bon charretier parce qu'il aurait une verrue au visage. Vraiment, dit avec calme Madame Talleva, fort étonnée, quand ai-je fait quelque objection contre un homme parce qu'il avait une verrue au visage? C'est-à-dire que je les aime plutôt, les verrues, car mon frère qui est mort en avait une sur le front. Mais je ne me rappelle pas que vous ayez jamais voulu engager un charretier qui eût une verrue, Monsieur Talleva. Nous avons eu John Gibbs, qui n'en avait pas plus que vous sur le visage, et que je vous ai encouragé à prendre. Vous l'avez pris, et s'il n'était pas mort d'une inflammation, nous avons bien payé le docteur Turnbull pour le soigner, il conduirait fort probablement encore le chariot maintenant. Il pouvait bien avoir quelques verrues cachées, et comment aurais-je pu le savoir, monsieur Talleva? Non, non, Bessie, je ne voulais pas dire précisément une verrue, je voulais dire par là quelque chose de plus qu'il ne faut. Mais c'est égal, il est difficile de parler. Ce à quoi je pense, c'est à trouver précisément l'espèce d'école qu'il faut pour Tom. Car je pourrais être encore mis dedans comme je l'ai été avec l'académie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec une académie. À quelque pensionnat que j'envoie Tom, ce ne sera pas une académie. Ce sera un endroit où les garçons emploient leur temps à quelque chose de mieux qu'à cirer les souliers de la famille et à arracher les pommes de terre. C'est une affaire extraordinairement embarrassante que de savoir quelle école choisir. Monsieur Talleva se tut une ou deux minutes et enfonça les deux mains dans ses poches, comme s'il espérait par là trouver une idée. Il paraît qu'il ne fut pas déçu, car il dit bientôt « Je sais ce que je ferai. J'en parlerai demain à Riley, il vient demain comme arbitre pour l'écluse. » « Bien, monsieur Talleva, j'ai sorti les draps pour le meilleur lit, et Kezia les fera sécher devant le feu. Ce ne sont pas les plus beaux, mais ils sont assez bons pour que quelqu'un dorme bien dedans, quel qu'il puisse être. Car pour les beaux draps de Hollande, je me repentirais de les avoir achetés si ce n'était qu'ils doivent servir à envelopper nos corps. Si vous deviez mourir demain, monsieur Talleva, ils sont supérieurement calandrés et tout prêts, avec une odeur de lavande que ce serait un plaisir de s'en servir. Ils sont dans le coin à main gauche de la grande armoire de chêne au fond. Non que je voulusse confier à personne autre que moi le soin de les en sortir. » Pendant cette dernière phrase, Madame Talleva tira un brillant trousseau de clés de sa poche et en choisit une qu'elle frotta de haut en bas entre le pouce et l'index avec un sourire de satisfaction tout en regardant flamber le feu. Si M. Talleva eût mis de la susceptibilité dans ses relations conjugales, il aurait pu supposer qu'elle sortait cette clé pour aider son imagination à contempler le moment où elle serait dans l'obligation de faire usage pour lui de ses plus beaux draps de toile de Hollande. Heureusement, il n'en était point ainsi. M. Talleva n'était susceptible qu'à l'égard de ses droits sur la force motrice de l'eau. De plus, il avait l'habitude de ne pas écouter très attentivement sa femme, et depuis qu'il avait fait mention de M. Riley, il était en apparence occupé à caresser ses bas de laine. « Je crois que j'y suis, Bessie », fut sa première remarque après un court silence. « Riley est probablement un homme comme il n'y en a point pour connaître quelque école. Il a été à l'école lui-même, il va partout, à toutes sortes d'endroits, pour arbitrer, évaluer, que sais-je encore. Nous aurons le temps d'en parler demain, quand les affaires seront terminées. Je voudrais que Tom devint une sorte d'homme comme Riley, sais-tu? Un homme qui pût parler aussi bien que si tout était écrit devant lui, et sachant un bon nombre de mots sans grande signification, mais avec lesquels on peut être fort devant la loi. Riley a aussi une sûre et solide connaissance des affaires. « Bien, dit Madame Talleva, quant à ce qui est de bien parler, de connaître toutes choses, de marcher le dos voûté et de relever ses cheveux, je ne m'inquiéterai pas que le garçon fût élevé à cela. Mais ces beaux parleurs de grandes villes portent pour la plupart de faux devants de chemise. Ils gardent un jabot jusqu'à ce qu'il soit tout fripé, puis ils le cachent avec une bavette. Je sais que c'est ainsi qu'en use Riley. Et puis, si Tom doit aller demeurer à Matport, comme Riley, il sera dans une maison avec une cuisine à peine assez grande pour s'y retourner. Il n'aura jamais un œuf frais pour son déjeuner et devra coucher à un troisième ou un quatrième étage, que sais-je, et y être brûlé vif avant d'en pouvoir descendre. Non, 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 je n'ai point d'idée qu'il aille à Matport. J'ai l'intention qu'il établisse son étude à St. Ogg's, près de nous, et qu'il demeure à la maison. Mais, continua M. Talleva après un moment, ce dont j'ai un peu peur, c'est que Tom n'est pas exactement l'espèce de cerveau voulu pour un individu actif. Je le croirais un peu indolent. Il tient de ta famille, Bessie. Oui, il en tient, dit Mme Talleva, acceptant cette dernière phrase tout à fait à la lettre. C'est étonnant, la quantité de sel qu'il aime dans son bouillon. C'était le goût de mon frère, et avant lui de mon père. C'est presque dommage pourtant, continua M. Talleva, que le garçon tourne du côté de sa mère plutôt que la petite fille. C'est ce qu'il y a de pire dans les croisements de races. Vous ne pouvez jamais calculer au juste ce qui en résultera. La petite tire de mon côté maintenant. Elle est deux fois plus fine que Tom. Trop de finesse pour une femme, j'en ai peur, continua M. Talleva, en hochant dubitativement la tête d'abord d'un côté puis d'un autre. Il n'y a pas de mal tant qu'elle est petite, mais une femme trop fine, c'est comme une brebis à longue queue. on ne la paiera pas plus cher pour ça. Oui, c'est un mal pendant qu'elle est petite, monsieur Taleva, car ça n'a d'autre effet que de la rendre indocile. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de lui faire garder un sarrau propre 2 heures de suite. Et maintenant que vous me le rappelez, continua madame Taleva, en se levant et en allant à la fenêtre, je ne sais où elle est à présent, et il est bien près de l'heure du thé. Ah, ainsi que je le pensais, elle va et vient le long de l'eau comme une folle créature. Elle y tombera quelque jour. Madame Taleva frappa fortement contre la fenêtre, fit des signes et secoua la tête, ce qu'elle dut répéter plus d'une fois avant de revenir à sa chaise. « Vous parlez de finesse, monsieur Taleva, » observa-t-elle en s'asseyant. « Mais je suis sûr que cet enfant est à moitié imbécile en plusieurs choses. Car si je l'envoie là-haut me chercher quelque objet, elle oublie pourquoi elle y est allée. Il lui arrive de s'asseoir sur le plancher au soleil, à tresser ses cheveux en chantonnant comme une échappée de bedlam, pendant tout le temps que je reste en bas à l'attendre. Cela ne s'est jamais vu dans ma famille, Dieu merci, pas plus que cette peau brune qui l'a fait ressembler à une mulâtresse. Je ne voudrais pas accuser la Providence, mais cela paraît dur de n'avoir qu'une seule fille, et qu'elle soit si singulière. Bast, ça ne veut rien dire. C'est une fille bien plantée avec des yeux noirs, telle que personne ne peut désirer en voir de plus beau. Je ne sais pas en quoi elle est en arrière des autres enfants. Elle peut lire presque aussi bien que le pasteur. Mais ses cheveux ne veulent pas friser, quoi que je puisse faire, et elle est si ridiculement ennemie des papillotes que j'ai une peine incroyable à la faire tenir tranquille pour les pincer avec le fer. Coupe les cours, dit le père brusquement. Comment pouvez-vous parler ainsi, monsieur Taleva? C'est une trop grande fille. Elle a passé 9 ans. Elle est trop grande à son âge pour avoir les cheveux coupés courts. Et voilà sa cousine Lucy qui a des boucles tout autour de la tête sans qu'un cheveu soit hors de sa place. Ça me paraît dur que ma sœur Dean ait cette jolie enfant. Je suis sûr que Lucy tient plus de moi que ne le fait ma propre fille. Maggie, Maggie, continua-t-elle d'un ton agité, à moitié câlin comme cette petite erreur de la nature entrait dans la chambre. À quoi sert-il que je te dise de te tenir loin de l'eau? Tu y tomberas, tu seras noyé un jour ou l'autre. Et alors tu seras bien fâché de n'avoir pas fait ce que te disait ta mère. » Les cheveux de Maggie, quand elle ôta son chapeau, confirmèrent péniblement l'accusation de sa mère. Madame Taleva, désirant que sa fille eût les cheveux frisés, comme ceux des autres enfants, les avait fait couper sur le front, trop courts pour qu'ils pussent passer derrière les oreilles. Et comme ils étaient généralement droits 1 heure après être sortis des papillotes, Maggie secouait continuellement la tête pour chasser ses lourdes mèches brunes de devant ses brillants yeux noirs, mouvement qui lui donnait beaucoup de ressemblance avec un petit poney de Shetland. « Oh, chère, chère Maggie, à quoi penses-tu de jeter là ton chapeau par terre? Porte-le là-haut, sois une bonne fille et fais brosser tes cheveux. Mets ton autre sarrau et change de soulier, tu es à faire honte. » Puis reviens continuer ton ouvrage de pièces rapportées comme une petite dame. « Oh, mère, » dit Maggie d'un ton prononcé de mauvaise humeur, « je n'ai pas envie de faire mon ouvrage de morceaux rapportés. »« Comment, ton joli ouvrage, pour faire une courte pointe pour tante Clegg ?»« C'est un travail absurde, » dit Maggie, en secouant sa crinière, « que de déchirer les choses en morceaux pour les recoudre ensuite ensemble. Et je ne tiens pas à faire quelque chose pour ma tante Clegg. Je ne l'aime pas. » Maggie sortit en traînant son chapeau par le ruban, tandis que M. Taleva riait de manière à en être entendu. « Je suis étonné que vous puissiez rire de cela, M. Taleva, » dit la mère avec une légère agitation dans la voix. « Vous l'encouragerez dans sa malice, et ses tantes prétendront que c'est moi qui la gâte. » Madame Taleva est ce qu'on appelle une bonne personne. Elle n'a jamais pleuré, étant petite enfant, pour un motif moindre que la faim ou une piqûre d'épingle. Depuis le berceau jusqu'à ce jour, elle a toujours été bien portante, fraîche, grasse et lente d'esprit. Bref, la fleur de sa famille pour la beauté et l'amabilité. Mais le lait et la douceur ne sont pas les choses les plus faciles à conserver, et quand ils deviennent légèrement aigres, ils peuvent indisposer gravement de jeunes estomacs. Je voudrais bien savoir si ces admirables madones de Raphaël, avec leur blonde tête et leur expression quelque peu niaise, conservaient leur douceur constante quand leurs enfants, aux membres robustes et à la volonté forte, devenaient un peu trop âgées pour se passer de vêtements. Je crois bien qu'elles doivent s'être livrées à de légères remontrances, devenant de plus en plus aigres à mesure qu'elles perdaient de leur effet.